branchez vos oreilles sur Radio Neurone et vous saurez tout sur le cerveau.
Écoutez-nous sur FMR, Radio Occitania,
Radio Campus, Canal Sud
et Radio Mon Pays.
Retrouvez-nous sur notre blog
http://radiocerveau.overblog.com.
Bonjour, bienvenue sur Radio Neurone. On accueille Émilie Massa.
Bonjour.
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 Alors, on a des questions pour vous.
Oui.
Qui êtes-vous et quel est votre métier ?
Donc, comme tu viens de le dire, je m'appelle Émilie Massa. Je fais un doctorat en sciences du langage dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire Octogone et qui est situé à l'Université du Mirail. Et donc, moi, je travaille un petit peu sur les langues et le cerveau, et notamment j'essaye de comprendre si le fait de parler plusieurs langues tout au long de notre vie aide notre cerveau à mieux vieillir. Donc voilà, c'est un petit peu le sujet de mes recherches.
Moi j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire être bilingue ?
Alors, être bilingue, c'est une bonne question, c'est une question assez compliquée. On pense souvent que être bilingue, c'est le fait en fait d'apprendre deux langues dès la naissance, quand on a un papa qui parle une langue et une maman qui parle une autre langue, et donc de maîtriser très très bien ces deux langues. En fait, d'un point de vue scientifique, être bilingue, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puisqu'en fait, on va considérer que le fait d'être bilingue se caractérise par la connaissance de deux langues. Alors du coup, c'est une définition qui est beaucoup plus vaste et ça peut intervenir dans beaucoup de contextes différents. Donc par exemple, je vous donne deux, trois exemples différents. On peut avoir appris sa langue maternelle, donc avec ses parents, puis les parents déménagent et à l'âge de 3 ans, on se retrouve dans un autre pays et on doit apprendre une autre langue à l'école, par exemple. Et on va parler la langue maternelle à la maison et puis la deuxième langue à l'école. On peut aussi se retrouver dans des situations où on parle, par exemple, le trois quarts du temps, une langue, par exemple, parce qu'on habite dans une grande ville et que c'est la langue officielle de cette grande ville. Et puis, de temps en temps, par exemple, c'est notamment le cas en Afrique ou en Asie, on va, par exemple, dans un petit village pour voir ses grands-parents et là, on parle, en fait, une autre langue, un dialecte. Ou alors, troisième cas, on peut avoir appris une langue maternelle, vivre dans un pays pendant 20 ans et puis émigrer à l'âge de 20 ans, 30 ans dans un autre pays pour trouver du travail et donc être confronté à l'apprentissage d'une autre langue. Et alors, on va beaucoup parler cette deuxième langue et on va plus trop parler sa langue maternelle. Dans tous ces cas-là, on considère ces personnes comme étant des personnes bilingues. Donc voilà, tu vois que ça, être bilingue, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Rentrer un petit peu plus en détail là-dessus. Je voulais vous demander s'il y en a parmi vous qui parlent d'autres langues à la maison. Qu'est-ce que tu parles comme langue ? Le marocain. Alors,
l'arabe
dialectal marocain. L'arabe marocain. Mmh. Ok. Turc.
Maori.
Maori, oui.
L'arabe algérien.
Arabe algérien. Arabe libanais.
Malgache.
Vas-y donc.
Arabe
tunisien.
Arabe algérien.
Allemand.
Arabe algérien marocain.
Les deux.
Hein? Non, français.
Espagnol.
Les français.
Arabe algérien.
arabe marocain.
Vas-y, non, je sais pas si vous vous rendez compte que... Ça fait 10 ans, entre nous, on a fait un sacré tour du monde. Là.
Est-ce qu'il y a plus de gens bilingues ou monolingues dans le monde ?
Ah, alors, il faut savoir que déjà sur 193 États dans le monde, il y a 45 États qui ont officiellement au minimum deux langues. Donc c'est vraiment l'État qui dit, voilà, par exemple, en Inde, il y a l'hindi et l'anglais qui sont les deux langues officielles de l'Inde. Donc ça représente déjà 1,4 milliard de la population qui est confronté au fait de parler deux langues presque quotidiennement. Mais il y a aussi beaucoup de pays dans lesquels il y a plusieurs langues qui peuvent cohabiter, qui ne sont pas reconnues officiellement. Et donc, en fait, si on fait la somme de toutes ces personnes dans le monde qui sont confrontées tous les jours au fait de parler plusieurs langues, en fait, on dépasse complètement la moitié de la population mondiale. Donc, en fait, on peut dire que... dans le monde, il y a plus de personnes qui parlent plusieurs langues que de personnes qui parlent qu'une seule langue. Donc, en d'autres termes, il y a plus de bilingues dans le monde que de monolingues.
Quel est le continent où l'on parle le plus de langues différentes ?
Alors, le premier continent, c'est un petit peu paradoxal parce que c'est un continent auquel on ne pense pas forcément, c'est l'Océanie. Parce qu'en fait, en Océanie, il y a un tout petit pays qui s'appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui, à lui seul, compte plus de 800 langues. Donc, ça fait beaucoup pour un petit pays. Ensuite, on a l'Afrique, l'Asie, ensuite on a l'Amérique, et nous en Europe, on est les petits derniers, puisque c'est nous qui parlons le moins de langues. Voilà.
En France, on pourrait penser qu'on compte qu'une langue. En fait, on en compte 25. Parce que tout simplement, si vous allez parler, par exemple, à un breton qui parle le breton, je peux vous assurer que vous allez avoir de grosses difficultés à le comprendre. Donc, on compte le breton comme une langue.
Et les autres langues ?
Alors, les autres langues, il y a l'occitan, il y a le provençal, il y a plein de... Oui. Voilà, je ne les ai pas toutes en tête. Mais... Le basque, etc.
Si j'apprends deux langues, est-ce que je vais me tromper plus facilement ?
Alors, non, pas forcément. Il y a des études qui ont été menées et qui montrent qu'en fait, même des enfants tout petits qui ont appris deux langues en même temps, quand par exemple le papa parle une langue et la maman parle une autre langue, ces études elles ont montré qu'à partir de l'âge de 3 ans, les enfants, ils font très bien la différence, en fait, entre les deux langues et ils mélangent plus du tout les deux langues. Donc, si on apprend et on parle deux langues dans des contextes différents, il n'y a pas beaucoup de risques, en fait, de mélanger les langues entre elles. Mais parfois, ça peut arriver dans certains cas. Par exemple, si on se trouve en présence d'un parent qui parle les deux mêmes langues que nous. Je vous donne un exemple. Si tu parles le français et le turc, et que ton père ou ta mère parle aussi le français et le turc, c'est possible de te retrouver dans des situations où tu vas mélanger les deux langues. Mais en fait, il ne faut pas que ce soit... Ce n'est pas du tout un phénomène négatif. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas la différence entre les deux langues. C'est juste que, tout simplement, c'est plus facile pour notre cerveau, parce que notre cerveau sait très bien que la personne qu'on a en face, elle parle aussi les mêmes langues que nous. Donc, notre cerveau comprend très bien que la personne, elle va comprendre ce qu'on lui dit, même si on mélange les langues. Et donc, comme le but de la communication, c'est toujours de parler, on va dire, de manière fluide, pour que ce soit le plus facile possible, quand on ne trouve pas un mot dans une langue, on va le remplacer par un mot de l'autre langue. Comme on sait que la personne en face de nous, elle comprend très bien, c'est ce qui fait qu'on peut mélanger en fait les deux langues. Mais voilà, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. Et on peut très bien, dans d'autres situations, faire la différence entre les langues. Donc non, il n'y a pas de risque, pas vraiment de risque de mélanger les langues entre elles.
D'accord. Si on apprend 5 ou encore plus de langues, est-ce qu'on va prendre plus de temps pour trouver un mot ?
Alors oui, ça peut arriver en fait, parce que il faut comprendre que dans notre cerveau, les langues, elles sont représentées dans des petits sous-systèmes, dans des petits tiroirs en fait. Et donc, quand on cherche un mot, Il faut déjà commencer par ouvrir le bon tiroir, donc le tiroir de la bonne langue, et puis après passer en revue tous les mots qu'il y a dans ce tiroir. Donc plus on parle de langue, plus on connaît de mots, plus on peut mettre du temps pour trouver certains mots. Mais en fait, ça dépend beaucoup de la fréquence d'utilisation des langues. Plus on parle une langue souvent, et plus ça va être facile de trouver un mot dans cette langue, et moins on la parle, moins on s'entraîne à la parler, et plus on va mettre du temps pour trouver un mot. Voilà. Alors, je vous ai préparé une petite expérience. C'est une petite expérience, vous allez voir. Vous avez des images en tête qui vont défiler. Et vous allez avoir des images bleues et des images rouges. Donc, quand c'est bleu, il faut donner le nom en français. Et quand c'est rouge, il faut donner le nom en anglais. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y en a une parmi vous qui serait d'accord pour se prêter à l'expérience ? Donc il y a des noms qu'il faut que tu donnes en français et en anglais.
Yes.
Bougie.
Champignon.
Dog.
Casa.
House.
House.
Parapluie.
Cat.
Papillon.
Citronnerie.
Coke.
Vache. Cerise. Lapin.
Si on est bilingue ou plurilingue, est-ce que notre cerveau travaille et vieillit mieux?
Alors, il y a beaucoup de recherches en ce moment qui sont menées dans ce domaine et qui montreraient qu'en effet, il y a une influence des langues sur notre cerveau et notamment sur une fonction qui est très importante chez l'être humain qui s'appelle le système exécutif. Alors le système exécutif, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui est située juste à l'arrière en fait, de notre front, une fonction qui est préfrontale et qui est très utile dans la vie quotidienne. C'est ce qui va nous permettre de nous adapter à des nouvelles situations. C'est ce qui va nous permettre de passer d'une action à une autre. C'est ce qui va nous permettre de ne pas faire une action automatique si cela n'est pas nécessaire. Et on s'est rendu compte que les personnes qui parlaient plusieurs langues, quand on leur demande de faire des petits tests avec justement ces actions à faire, elles ont souvent des meilleurs résultats que les personnes monolingues. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'on pense que le fait de parler plusieurs langues tout au long de sa vie, ça fait comme un petit entraînement en fait pour notre cerveau. C'est un peu le cours de fitness, le cours de sport pour notre cerveau. Et plus on entraîne son cerveau à faire une action, et plus il devient performant, il devient meilleur en fait dans cette action. Un petit peu comme si tu t'entraînais à courir le 100 mètres, dans un an tu seras meilleur à courir le 100 mètres que celui qui ne s'est jamais entraîné. Donc on pense en fait que le fait de parler plusieurs langues, en effet, ça a une influence sur notre cerveau et que quand on vieillit, qu'on perd un petit peu l'habitude de faire ces actions, plus on les a entraînées et plus c'est facile, moins on va les perdre, moins ces fonctions vont se dégrader. Donc on pense en effet que ça aide notre cerveau à mieux vieillir.
Est-ce que c'est plus facile d'apprendre une langue quand on est motivé?
Alors, est-ce que c'est plus facile d'apprendre une langue quand on est motivé? Alors oui, dans tous les cas, c'est plus facile d'apprendre quelque chose quand on est motivé. Pas forcément une langue, ça peut être aussi une autre matière. Alors en fait, il y a plusieurs types de motivation. On peut être motivé pour apprendre une langue parce qu'on sait qu'on a un examen à la fin et que dans tous les cas, si on veut réussir son examen, il va falloir travailler. Mais on peut aussi trouver une motivation qui nous fasse plaisir, par exemple. Et quand on trouve une motivation qui nous fait plaisir, on se rend compte que généralement, on a de meilleurs résultats pour apprendre les langues que si on a une motivation pour laquelle on se sent un petit peu obligé, en fait, de faire les choses. Donc, dans tous les cas, oui, c'est très important d'être motivé, d'avoir sa propre motivation pour apprendre une langue. Ça donne vraiment de meilleurs résultats.
Mais si je n'aime pas une langue, comment faire pour me motiver à l'apprendre?
Ah, alors, déjà, il faut comprendre que ça peut arriver On a tous des préférences de certaines matières par rapport à d'autres, d'une langue par rapport à une autre. Déjà, il faut comprendre que si on n'aime pas une langue ou si on se sent un petit peu nul dans une langue, faut comprendre déjà dans quelle partie de notre apprentissage on se sent nul. C'est compliqué d'apprendre une langue parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, c'est-à-dire que non seulement il faut parler avec les bons mots, trouver les bonnes règles grammaticales, les employer dans les bons contextes, et en plus parler avec un bon accent. Ben, tout ça, ça fait beaucoup de choses quand même. Donc déjà, il faut essayer de trouver un petit peu ses points forts et ses points faibles. Donc on peut, par exemple, avoir des difficultés pour comprendre certaines règles grammaticales, mais avoir un très bon accent. Donc ça, c'est bien aussi de le mettre en avant. Ensuite, il faut se trouver une motivation qui est personnelle et qui peut être un petit peu immédiate. C'est-à-dire que souvent, on vous dit « Ah, ben, faut apprendre une langue étrangère, c'est important, plus tard, tu trouveras du travail. » Bon, sauf que quand on est en sixième ou en cinquième, tout ça, c'est un petit peu loin pour nous de se dire « ça va m'aider à trouver du travail ». Mais par contre, il y a plein de situations dans lesquelles vous pouvez trouver du plaisir à parler cette langue. Par exemple, si tu as envie de chanter et que tu aimes bien une chanteuse en particulier, je ne sais pas, par exemple, Rihanna. Et donc, tu aimerais bien chanter ces chansons, mais tu ne comprends pas les paroles. Ben, là, pour le coup, apprendre l'anglais, ça peut vraiment t'aider, en fait, à traduire ces chansons pour pouvoir, par exemple, mieux les interpréter. Donc, tu peux avoir le travail que tu fais en classe et à la maison, un petit travail dans lequel tu vas traduire les chansons, etc. Ça, c'est ta motivation à toi, c'est ce qui te fait plaisir. Ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas s'il y en a, voilà, certains qui jouent aux jeux vidéo. S'il y en a qui ont envie de jouer en réseau, par exemple, et qui ont envie de jouer avec des personnes qui ne se trouvent pas forcément en France, pour pouvoir communiquer avec eux, il va falloir parler anglais. Donc là, la motivation, ça va être aussi d'apprendre pour pouvoir dialoguer avec ces personnes-là dans le jeu, pouvoir parler en anglais avec eux. Enfin, il y a une dernière chose qui est très importante quand on apprend une langue, quand on apprend quelque chose en général, c'est d'identifier ses stratégies d'apprentissage. Alors, une stratégie d'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour apprendre quelque chose. Et on est tous différents par rapport à nos stratégies d'apprentissage. Il y a des personnes qui voient un mot écrit au tableau, ils retiennent. Il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Il y a des personnes qui ont besoin de se mettre debout dans leur chambre et puis marcher, réciter et en faire une chanson, etc. Une fois qu'on a trouvé sa propre stratégie d'apprentissage, mais il faut vraiment la mettre en application, même si elle vous semble un peu bizarre ou un peu bête. C'est pas du tout le cas. Donc ça peut vraiment nous aider en fait pour apprendre les langues et se motiver et avoir de meilleurs résultats.
Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Émilie Massa.
Merci, avec plaisir.
Et les auditeurs, je vous invite à rester branchés sur Radio Neurone.
Branchez vos oreilles sur Radio Neurone et vous saurez tout sur le cerveau.
Merci à Caroline Bertelli, Ethel Bourgeois, Eva Wemberger, Charlotte Bezina, Émilie Massa, Bernard Frances, aux différents acteurs de la Semaine du Cerveau, aux radios partenaires, à toute l'équipe des Chemins Buissonniers et à nos jeunes reporters en herbe. Les musiques libres utilisées pour l'habillage sonore de cette émission sont de Fujasaki avec un morceau intitulé Poets Dying et un morceau de Elias Schwertweger. A été réalisée dans le cadre de l'atelier Radio Girafe proposé par l'association Gudule et Galipette. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modification.
Et tu sais que les girafes, ça n'existe pas.
Ah bon ?
Eh ouais, c'est un coup monté.
Radio Girafe. Des ateliers d'initiation à la radio et aux médias 2.0 proposés par l'association d'éducation populaire Gudule et Galipette. Retrouvez-nous sur internet www.gudule-galipette.fr.